VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Gambie, le président de la commission électorale indépendante gambienne, Aliou Mouma Ndiaye, s'est réfugié au Sénégal voisin par crainte pour sa sécurité. C'est ce qu'a affirmé mardi soir à l'AFP un membre de sa famille. On ignore pour le moment quand M. Ndiaye a quitté la Gambie et la nature des menaces proférées contre lui. Par ailleurs, deux des trois stations de radio privées gambiennes fermées par les autorités sont toujours réduites au silence. Mais une des trois a été autorisée à revenir sur les ondes alors que le bras de fer continue entre le président sortant gambien Yahya Jammeh, qui refuse de reconnaître sa défaite aux récentes présidentielles, et l'opposant Adama Barrow, vainqueur du scrutin du 1er décembre. Les précisions de Michel Joseph.
La station Afri Radio a reçu lundi soir l'autorisation de reprendre ses activités, mais sous un encadrement strict. On nous a demandé d'arrêter tous les programmes habituels et de faire en sorte qu'aucun animateur ne soit en studio. Aucun employé n'est autorisé à parler à l'antenne, a expliqué un membre de son personnel sous couvert d'anonymat. Mardi soir, la radio ne diffusait que de la musique. Pas de changement pour les deux autres stations, Teranga FM et Hilltop Radio, qui restent fermées. Jusqu'à mardi soir, aucune explication n'avait pu être obtenue des autorités sur les motifs de ces fermetures de radio. Aucun document officiel n'a été produit pour motiver ces fermetures, a dénoncé l'ONG Reporters sans frontières, précisant que, selon des sources locales, aucune de ces radios n'avait diffusé de contenu susceptible de froisser les autorités ces derniers jours. Ces fermetures arbitraires sont extrêmement préoccupantes dans le contexte actuel de crise post-électorale en Gambie, a déclaré la rédactrice en chef de Reporters sans frontières, Virginie Dangles.
Rétrospective 2017 au Mali, une meilleure vision et gestion de la question migratoire, paix et stabilité partout dans le pays, création d'entreprises locales pour fournir davantage d'emplois aux jeunes, tels sont entre autres les souhaits des Maliens pour 2017. Si certains sont optimistes, d'autres restent en revanche très pessimistes à cause de l'insécurité, du chômage et du rapatriement des Maliens de l'extérieur. De Bamako, le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
L'optimisme chez les Maliens est naturel. Malgré la difficulté du Mali, en ce début d'année 2017, certains Maliens veulent garder l'espoir.
Dramane Konaté, conseil pédagogique à la retraite. De point de vue perspective, bon, je pense que nous pouvons espérer, étant donné que nous sommes des fatalistes, nous sommes des religieux. En tout cas, moi, j'ai bon espoir. Le Mali doit faire face vraiment à la paix. Parce que jusqu'à présent, cette histoire de paix, la négociation jusqu'ici, là, ça trébuche. Nous voyons que notre président, il est bien engagé. Sérieusement, il a vu que ce n'était pas, c'est pas une question de force.
La première grande activité de l'année 2017 au Mali, c'est le sommet Afrique-France. Il est source d'optimisme chez certains jeunes Maliens.
Moi, je suis Abdelaziz Traoré. Je suis optimiste puisque avec l'arrivée des investisseurs, nous pouvons espérer avec l'arrivée des usines qui vont combattre un peu le chômage. Et pendant ce sommet-là aussi, la masse salariale devrait être augmentée également.
Moi, c'est Abdoulaye Samasekou. Je suis aide bibliothécaire à la Flash. Ce sommet-là, peut-être ça va faire des changements avec multifonctionnel de tous les chômages. Mais moi, je pense que le sommet-là, c'est très important ici au Mali. Ça va nous donner beaucoup d'avantages, surtout les jeunes.
Cet optimisme n'est pas partagé par tous les jeunes. Pour certains, ce sommet vient augmenter la difficulté du pays.
Souri Brahim Konaté, journaliste. Je ne m'attends pas à plus d'innovation. C'est vrai, le Mali recevra une rencontre internationale qui est le sommet Afrique-France. Aujourd'hui, le pays est confronté à plusieurs problèmes qui dépassent nos autorités et dont la gestion dépasse même quelque part la communauté internationale. Parce que la position du Mali dans le Sahel est de telle que le terrorisme est très développé, notamment sur les un tiers du pays.
Pour le secrétaire à la communication du parti Djama, parti de la majorité présidentielle, le régime actuel n'a pas de perspective pour les Maliens. Moriba Dabou.
Imagine, quand ils sont venus, ils ont promis 1000 emplois. Aujourd'hui, ils en ont fait 5000 chômeurs. Avec l'accord de réadmission, on a eu des parents en France qui nous ont appelés, ben, qui vont être refoulés. Vous partez en Italie, il y a plus de 10 000 Maliens qui sont emprisonnés. En Espagne, ils sont plus de 23 000. Et en France, c'est plus de 25 000. ce qu'on voit. Sincèrement, la meilleure façon de dire à ces gens non, c'est d'aller tout simplement voter contre les partis au pouvoir en 2018. C'est la seule solution.
L'emploi chez les jeunes peut être gage de paix avec l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue.
Moi, je me nomme Aïssata Diarra. Moi, je voudrais surtout que l'État fasse des projets pour les jeunes, pour les enfants surtout, qui sont dans la rue, qui sont orphelins, qui sont là sans famille, quoi. Et que l'État, disons, fasse un projet pour ces enfants-là.
Mon souhait le plus ardent est que la paix arrive enfin dans notre pays. Que tout ce qu'on a dit, sur ce qu'on a écrit sur les papiers, que ce soit une réalité. On sait que l'emploi des jeunes ne peut pas se faire sans la paix.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, moins d'une semaine après la signature de l'accord politique ayant sanctionné les discussions entre acteurs politiques congolais sous les auspices de l'Église catholique, la majorité présidentielle qui a signé cet accord sous réserve remet déjà en cause certains de ses passages. Robin Minaku, le secrétaire général de la plateforme politique du président Joseph Kabila, assure que toutes les dispositions de cet accord qui ne respectent pas la Constitution et les lois congolaises sont nulles et non avenues. On l'écoute au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La majorité présidentielle a effectivement signé l'accord sous réserve et est satisfait de cet accord. La majorité présidentielle a émis une réserve essentielle concernant l'inclusivité. Suite à cette réserve, cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrées dans la suite du processus. Nous y verrons. L'accord signé est une étape réussie, mais qui a une autre étape, et cette étape concerne l'arrangement particulier. Enfin, au-delà de tout cela, avant, pendant et après l'élaboration de l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va appliquer l'accord pour autant qu'il soit conforme à la Constitution. Toutes les dispositions de l'accord, contraires à la Constitution de la République et aux lois de la République, sont nuls et de nul effet.
Robin Minaku, secrétaire général de la plateforme politique du président congolais. La coalition au pouvoir RDC a conditionné sa participation aux négociations sur les modalités et le calendrier d'application de l'accord de co-gestion du pays à la reconduction du mandat de la médiation des évêques par le président Joseph Kabila. Actualité américaine maintenant, la 115e législature du Congrès des États-Unis est en session depuis hier. Les républicains contrôlent les leviers du pouvoir législatif à Washington, puisqu'ils ont la majorité tant au Sénat qu'à la Chambre des représentants. Et ils devraient prochainement mettre la main sur l'exécutif avec l'accession du président élu Donald Trump à la magistrature suprême ce mois-ci. Mais au Congrès, la majorité républicaine a déjà subi un premier revers hier, vu qu'elle a dû retirer un projet visant à limiter les pouvoirs du bureau d'éthique à la Chambre des représentants. Une volte-face en moins de 24 heures. Au micro d'Abdourahmane Dia, le professeur Lorenzo Morris, politologue à l'Université Howard de Washington, explique que cet épisode montre que la bataille sera rude au Congrès américain, malgré le fait que les républicains contrôlent ces deux chambres.
Je crois qu'on verra des petites tentatives, des petits projets qui sont extrêmes, mais qui peuvent être retirés à côté ou juste avant des projets qui sont plus importants dans le domaine de politique comme la santé, Obamacare, ou bien comme la protection des droits de vote, ou dans le domaine des impôts et de la taxation pour les grandes entreprises. Toutes ces questions doivent être entirées des petites questions peut-être plus extrêmes.
Donc on s'attend à une année difficile à Washington.
Une année difficile, mais plein de drames, plein de controverses.
le professeur Lorenzo Morris, politologue à l'Université Howard de Washington. Et pour terminer, en France, le tribunal correctionnel de Paris a accepté ce mercredi de reporter le procès de Théodorin Obiang, fils du président équato-guinéen et vice-président de Guinée équatoriale, accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Les futures dates d'audience sont actuellement en discussion, la présidente du tribunal proposant que le premier procès dans l'affaire des biens mal acquis se tienne à partir du 19 juin 2017. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.